Une semaine d'actualité. François Mazet.
Bonjour et bienvenue dans une semaine d'actualité, épisode du samedi 20 août. Au sommaire, la campagne électorale qui entre dans la dernière ligne droite avant la présidentielle du week-end prochain au Gabon, la très forte tension qui règne à Beni dans l'Est congolais, ou encore les petites polémiques qui laissent présager d'une rentrée politique agitée en France. Notre invité ce matin, si vous êtes un fidèle de l'émission, c'est Yann Mince, bonjour.
Bonjour.
Et les autres auront sûrement l'occasion de vous découvrir. Vous êtes journaliste au magazine Alternative Économique, à la une du numéro actuellement en kiosque, 500 ans d'utopie de Thomas More à nuit debout. Le besoin de rêver le monde. Alors direction la piste aux étoiles de Rio pour commencer, rêver peut-être un petit peu. On critique, c'est vrai, ces Jeux Olympiques brésiliens pour leur organisation, pour des stades pas toujours pleins. Mais dimanche dernier, un homme a été à la hauteur de l'événement.
C'est le grand moment des Jeux Olympiques, la finale du 100 mètres et évidemment Usain Bolt qui met son index sur la bouche. Lui aussi, il a l'habitude de ces attitudes-là pour demander un peu de silence. C'est le moment où il arrête d'être totalement décontracté et où il se concentre, il se met dans sa course en cessant de jouer avec le public. C'est parti, pas de faux départ. Bon jaillissement de Vico alors que De Grasse est là, mais mise en action de Justin Gatlin devant, Bolt revient, Bolt va s'imposer, Bolt encore champion olympique, le chrono, 9 secondes 80, Bolt haut la main, il est revenu tranquillement.
Je suis heureux d'être ici et d'avoir fait ce que je devais faire. C'est bon de franchir encore la ligne devant les autres. On se sent brillant. C'est un super sentiment et je suis content de moi. Après les demi-finales, je savais que j'allais encore gagner. Je devais juste jaillir et courir. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis fier de moi et c'est un sentiment merveilleux. C'est pour ça que je suis venu, être le meilleur possible et faire ce pour quoi je suis le plus grand. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Usain Bolt, premier athlète, premier sprinter, triple champion olympique du 100 mètres. Vous l'avez entendu juste après le direct de la course dans la voix de Christophe Jousset. Usain Bolt qui, après une saison quasi blanche, est encore dominé de la tête et des épaules tous ses rivaux avant de doubler la mise sur le 200 mètres jeudi soir. Un autre champion, moins bien loti, un grand espoir de médaille français, Renaud Lavilloni, dépossédé de sa couronne au saut à la perche par un Brésilien sorti de nulle part et capable de sauter une barre à 6,03 m. Lavilloni sifflé par le public de Rio et en plus d'être déchu de son titre olympique, il était déçu.
J'ai rien à me reprocher, hein. Je pense que c'était difficile de faire un concours mieux que ça. Mener le concours jusqu'à 5,98 avec tout au premier, c'était difficile de faire mieux. Après, j'ai manqué un tout petit peu de réussite à 6,03 sur mes deux premiers. C'est le sport. Et puis après, Thiago a fait un saut incroyable au bon moment. Là-dessus, il y a vraiment strictement rien à dire. Il a été très bon. Après, j'ai juste une énorme frustration et déception de cette ambiance de merde. C'est la première fois en 10 ans de sport de haut niveau que je me fais siffler dans un stade olympique, là où normalement, c'est des valeurs de respect, de fair play. Là, il n'y a eu aucun respect envers les concurrents de Thiago. On a vraiment un public de foot au Brésil et j'en ai payé les conséquences. C'est pas à cause de ça que j'ai perdu. Ça prend énormément d'énergie de se concentrer quand tu te fais siffler. Sinon, après, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde. C'est ma deuxième médaille olympique, donc voilà, j'ai répondu présent et c'est quelque chose qui est important.
Renaud Lavilloni au micro des équipes de RFI à Rio, des JO qui ne brillent pas sur le plan de l'ambiance ni sur celui de l'organisation. Et bien sûr, le mouvement olympique est déjà très critiqué avec les accusations de dopage, de malversation. Exemple, mercredi, avec l'arrestation à Rio du chef des comités olympiques européens, l'Irlandais Patrick Hickey, 71 ans, est accusé d'avoir participé à un réseau de vente illégale de billets pour les JO. François Cardona.
En pleine compétition, c'est un coup dur pour le comité olympique. Après des semaines d'enquête, la police brésilienne n'en doute pas. Le président du comité olympique irlandais, en place depuis 27 ans, aurait été au cœur d'un vaste réseau de revente de billets. Brièvement hospitalisé pour un malaise après son interpellation à son hôtel, il a ensuite démissionné de ses fonctions. Selon la police, le groupe, très organisé, aurait revendu illégalement plus de 780 billets. Pour la cérémonie d'ouverture, notamment, des billets VIP étaient proposés à plus de 7 000 euros. Plus de 6 fois leur prix officiel. La police brésilienne avait déjà interpellé il y a quelques jours l'un des dirigeants d'une entreprise suspectée d'avoir participé au trafic et avec laquelle le chef des comités olympiques aurait été en contact régulier. Lors des perquisitions, des ordinateurs et des téléphones portables ont été saisis et le commissaire en charge de l'enquête promet d'autres arrestations. Le comité olympique a assuré qu'il collaborait avec la police brésilienne et qu'il allait améliorer le système de vente de billets pour éviter de telles fraudes au sein même de son organisation.
Yann Mince, un mot de ces Jeux Olympiques de Rio. C'est vrai qu'on a l'impression que le Brésil, dans son état politique, socio-économique actuel, est en train de rater son rendez-vous avec l'histoire, de rater l'événement qui devait consacrer son entrée dans le concert des grandes nations.
Oh, je pense pas que les JO aient tant que ça d'influence. Le problème de l'entrée du Brésil dans le concert des grandes nations, c'est surtout que son économie est très défaillante parce que pendant toute la période Lula et le début du le premier mandat de Dilma Rousseff, en gros, les cours des matières premières dont le Brésil est le grand exportateur se portaient bien. Et puis après, ça a commencé à décliner. Le Brésil se porte moins bien, ce qui prouve que ce qu'on prêtait au Brésil, son influence, son aura, était relativement fragile. Et on le voit aujourd'hui, non seulement son économie est fragilisée, mais son système politique, du coup, est fragilisé. On voit bien avec les tensions, la destitution probable de Dilma Rousseff d'ici quelques jours par les parlementaires. Donc, effectivement, on a un pays qui faisait partie des pays émergents, qui avait en plus, contrairement à d'autres pays émergents, je pense à la Chine, avait cet avantage d'être une démocratie, qui était un pays pacifique sur la scène internationale. Mais voilà, le problème, c'est qu'une partie de son émergence reposait sur quelque chose de très fragile et qui aujourd'hui est défaillant, avec une société extrêmement clivée, avec de très fortes inégalités. Et puis, je pense, un décalage entre le système politique, système partisan, je dirais, et puis la société. On voit aujourd'hui un très fort dégoût dans la société brésilienne par rapport à la classe politique, dont Dilma Rousseff paye le prix. Mais aussi, on l'a vu au moment de la cérémonie d'ouverture des JO, quand le président en exercice, Temer, a été sifflé. C'est quand même rare qu'un président d'un pays qui ouvre les JO dans son pays soit sifflé par le public. C'est arrivé, ça prouve à mon avis la déliquescence, le blocage du système politique et partisan brésilien, et ça prouve des tensions très fortes dans la société. Alors les JO les effacent un peu parce que c'est quand même la fête, parce que les Brésiliens, on l'a bien vu, manifestent leur joie et aussi leur hostilité. Renaud Lavillani en a payé le prix. Donc ça efface en partie, mais une fois que ce sera terminé, les affaires malheureusement vont revenir assez vite.
RFI. Un autre pays en tension, c'est la Turquie. Les purges n'en finissent pas après le putsch raté du 15 juillet dernier. Des administrations aux fédérations sportives, en passant par les forces de sécurité, l'armée et les entreprises. Toute personne suspecte de sympathie envers l'imam Fethullah Gulen risque la garde à vue. C'est arrivé à plus de 35 000 personnes depuis un mois. Notre correspondant Alexandre Billette sur l'antenne de RFI mercredi matin.
Quelques hommes d'affaires proches de Fethullah Gulen avaient déjà été inquiétés par la justice, mais cette fois c'est une opération beaucoup plus large qui a été effectuée à Istanbul. Mardi, les policiers ont effectué des descentes dans au moins 40 entreprises dont les noms n'ont pas été rendus publics. Le Premier ministre a promis que les accusés auraient droit à un procès équitable et il semble vouloir rétro-pédaler sur le retour de la peine de mort avec ce commentaire violent. On exécute une personne une seule fois, mais certaines façons de vivre ressemblent encore plus à la mort. Il y a désormais plus de 20 000 personnes toujours en détention ou en garde à vue suite au putsch raté. Et les procès ont commencé. Celui de Fethullah Gulen, initié avant le putsch, est toujours en cours. Mardi, le parquet a requis 2 peines de prison à perpétuité et 1900 années de prison supplémentaire contre celui qu'Ankara accuse d'être derrière le coup d'État raté du 15 juillet.
Voilà, 1900 années de prison, il pourrait trouver le temps long, Fethullah Gulen, qui est toujours exilé aux États-Unis et qui demande une enquête internationale sur la tentative de coup d'État, jurant n'avoir aucun lien avec elle. Alors Yann Mince, la Turquie, on a parlé d'État parallèle pour qualifier les réseaux Gulen. Et à l'occasion de ce coup d'État manqué, le conflit souterrain entre le sultan et l'imam, pour imaginer un petit peu ce conflit, il semble quand même basculer en faveur clairement de Recep Erdogan.
Il semble basculer parce que le coup d'État a échoué. Alors, ce qui est difficile de savoir, c'est quelle est la part des gulenistes et de Gulen lui-même dans le coup d'État. Visiblement, il y avait dans les participants, du côté militaire en tout cas à ce coup d'État, des gens qui étaient visiblement proches de Gulen et d'autres qui étaient plutôt proches du mouvement kémaliste, c'est-à-dire de la laïcité historique, si je puis dire, dans l'armée turque. Ce qui est sûr, c'est qu'en ratant leur coup d'État, les putschistes ont ouvert un boulevard à Erdogan. Le président Erdogan, président turc, voulait présidentialiser le régime, qui pour l'instant, sur le papier, est un régime parlementaire, parce que l'homme fort en principe dans les institutions, c'est plutôt le Premier ministre que le président. En tout cas, le président n'a pas tous les pouvoirs. Et ce que voulait déjà Erdogan avant le coup d'État, c'est réviser la Constitution pour renforcer ses pouvoirs. On peut penser que maintenant, il a un boulevard devant lui, pas un boulevard complet. Il faut quand même qu'il tienne compte, qu'il essaie d'embarquer au maximum des partis d'opposition pour avoir au Parlement une majorité nécessaire. Ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, maintenant, il a une popularité, il a une aura dans son électorat et en partie au-delà, que je dis en partie au-delà parce qu'on a bien senti que l'opposition, notamment de gauche, l'opposition kémaliste, était embarrassée. Elle a condamné le coup d'État parce qu'effectivement, c'est difficile d'approuver un coup d'État aujourd'hui en Turquie, dans la Turquie d'aujourd'hui. Et en même temps, bon, ça consistait à soutenir objectivement Erdogan. Donc l'opposition a été prise à contre-pied, ce dont Erdogan profite aujourd'hui. Et il en profite avec tous les abus qu'on voit dans cette répression. Alors il faut bien dire que, dans la mesure où, au départ, Gulen et Erdogan étaient alliés, on peut penser que, effectivement, les services de renseignement turcs avaient une assez bonne idée sur qui étaient les gulenistes infiltrant
l'administration. Les listes étaient prêtes.
Probablement. En tout cas, une partie. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on prouve que quelqu'un est guléniste ou qu'il ne l'est pas. Et tout un tas de gens qui ont été arrêtés, visiblement, ne sont pas forcément des gulenistes. En tout cas, on peut soupçonner qu'ils ne le soient pas.
Une des conséquences de ces événements, on a vu Recep Erdogan aller voir Vladimir Poutine la semaine dernière pour mettre en scène le rapprochement entre la Turquie et la Russie. Ankara n'a jamais semblé si loin des Occidentaux. Est-ce qu'on assiste, selon vous, au basculement historique de la Turquie dans un nouveau bloc de non-alignés ou dans un bloc qu'on pourrait qualifier de bloc émergent ?
J'ai du mal à y croire, parce que la Russie n'est pas un allié très intéressant pour Erdogan. Certes, comme toujours, ça lui permet de faire la nique aux États-Unis. Mais pour l'instant, et pour moi, ce sera un symbole très fort, pour l'instant, la Turquie reste dans l'OTAN. Et l'OTAN, c'est une alliance militaire depuis 1949 qui est dominée par les États-Unis. Le jour où la Turquie sortira de l'OTAN, ce que j'ai du mal à croire, le jour où la Turquie sortira de l'OTAN, on pourra dire qu'elle a changé. Là, pour l'instant, il s'agit de se rabibocher avec une grande puissance de la région, pas forcément une grande puissance à la scène internationale, mais au moins une grande puissance régionale, la Russie, avec laquelle les relations étaient tendues depuis quelques mois à cause de cette affaire d'avion russe abattu par les Turcs parce qu'il aurait pénétré l'espace aérien turc en provenance de la Syrie. Donc il y avait cette brouille sur laquelle Poutine a très réagi. On a vu une espèce de duel de macho entre Poutine et Erdogan. Là, maintenant, ils ont besoin de se réconcilier, ou plutôt Erdogan a besoin de se réconcilier. Il ne faut pas qu'il ait trop de tensions. Sa position est fragilisée dans une certaine mesure sur la scène régionale par le putsch. On a bien vu quand même que même s'il a gagné, même si le putsch a raté, il y avait une fragilité. Il a besoin de se retrouver des alliés. Il est en difficulté avec l'Union européenne. Les relations sur la question des migrants sont notamment compliquées. L'Union européenne a besoin d'Erdogan, mais Erdogan ne peut pas non plus se fâcher avec les Européens. C'est le grand marché des exportations turques. Je pense qu'Erdogan, il a une politique classique. Quand il est fâché avec son allié principal, il va voir quelqu'un d'autre pour essayer de faire monter les enchères. J'ai beaucoup de mal à croire que le rapprochement puisse aller très loin, notamment parce que pour l'instant, sur la Syrie, leurs positions sont vraiment complètement opposées.
La Syrie, on y vient avec ce conflit qui se poursuit. L'ONG Amnesty International a publié un rapport accablant sur les violences et les tortures dans les prisons du régime. Sur la base de témoignages recueillis auprès de 65 anciens détenus, pour la plupart des civils qui ont survécu à la détention, Amnesty International a reconstitué virtuellement l'architecture, l'ambiance sonore d'une des geôles les plus violentes et les plus secrètes du régime, la prison de Saïdnaya. C'est à 30 km au nord de Damas. Carlotta Morteo a eu accès à ce rapport.
C'est enfermé dans un camion frigorifique que les détenus arrivent à Saïdnaya, une prison militaire perchée à 1300 mètres d'altitude.
C'était terrifiant. Les insultes, les coups partout sur le corps, et puis une odeur étrange, l'odeur de la mort. Il y avait beaucoup de sang.
Sous-alimentés, assoiffés, nus, même l'hiver, et régulièrement battus. Ici, des centaines de détenus vivent l'enfer, dans l'obscurité, 20 heures sur 24. Torturés, mais jamais interrogés, dans cette prison où le silence est roi, question de survie.
Tu n'as pas le droit de parler à haute voix, il faut murmurer, sinon on te frappe. Et puis c'est grâce à lui que tu comprends ce qui se passe. Si le bruit des coups se répète dans plusieurs cellules, tu sais que ton tour va venir.
Le câble électrique, par exemple, ça fait comme ça.
Condamnés par un tribunal militaire, les détenus de Saïd Naya n'ont pas droit à un avocat et beaucoup n'ont aucun contact avec leur famille.
Les gens doivent savoir ce qu'il se passe ici. Combien de personnes sont mortes? Combien ont été torturées? J'ai perdu 5 ans de ma vie entre ces murs et c'est là que j'ai réalisé comment le régime gouvernait le pays.
Selon Amnesty International, 300 détenus meurent chaque mois dans une prison du régime. C'est 6 fois plus qu'avant le début de la guerre en 2011.
Et pendant ce temps, la bataille pour Alep se poursuit entre les différentes forces en présence. Une trêve humanitaire est évoquée pour les jours qui viennent, mais elle ne devrait être que de courte durée. Humanitaire toujours avec l'impossibilité pour Médecins sans frontières de poursuivre ses activités dans un autre pays en guerre, le Yémen. L'ONG a annoncé jeudi soir l'évacuation de son personnel de 6 hôpitaux du nord du pays après un nouveau bombardement d'un de ses sites. 19 personnes tuées, une vingtaine blessées. D'après MSF, c'est la 4e fois qu'une structure que l'organisation soutient est touchée au Yémen, alors que la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite a connaissance des coordonnées GPS de ces hôpitaux.
Une semaine d'actualité, François Mazet.
L'Irak, toujours pas de sortie de crise politique. Le Parlement de Bagdad a approuvé néanmoins lundi la nomination de 5 nouveaux ministres. Jusqu'à présent, les députés avaient surtout bloqué les projets du Premier ministre Haider El-Abadi. Écoutez les explications de notre journaliste Nicolas Falaise.
Un gouvernement de technocrates et des réformes pour combattre la corruption. C'est le programme que le premier ministre irakien Haider El-Abadi propose depuis des mois, mais sans obtenir jusqu'à présent le feu vert du Parlement de Bagdad. Un bras de fer révélateur des failles du système politique mis en place en 2003 après l'invasion américaine de l'Irak. Un système basé sur la répartition confessionnelle et tribale des postes et des rentes. De nombreux Irakiens jugent leur classe dirigeante incompétente et corrompue. On a ainsi vu des milliers de manifestants excédés envahir le quartier des institutions et même le Parlement de Bagdad au printemps dernier, au plus fort de la crise politique. Ce lundi, le Parlement a fini par approuver la nomination de 5 ministres, dont ceux du pétrole, des ressources hydrauliques et de l'éducation supérieure. Un 6e nom proposé pour le portefeuille du commerce a été rejeté. Le Premier ministre Haider El-Abadi assure que la campagne pour les réformes continue. La tâche s'annonce des plus difficiles dans un pays qui fait face à d'importants défis, qu'il s'agisse de la guerre contre le groupe État islamique ou de la baisse des prix du pétrole qui plombe les finances de ce pays producteur.
Yann Mince, réformer l'Irak, lutter contre la corruption, reconstruire les forces de sécurité aussi. On a l'impression que ça fait des années qu'on entend le même discours, en fait, depuis l'intervention américaine de 2003.
Oui, bien entendu. Simplement, jusqu'en 2011, les États-Unis étaient là. Et en ce qui concerne la formation de l'armée, c'était eux qui étaient censés s'en occuper. Quand ils sont partis en 2011, ils ont levé le pied là-dessus et ils ont été obligés de revenir récemment, justement, parce que contre l'État islamique, ça n'avait pas fonctionné. On se souvient qu'à Mossoul, en 2014, les militaires irakiens ont fui, ont décampé devant l'avancée de l'État islamique. Je pense que le problème, en l'occurrence, qu'évoquait Nicolas Falaise dans son reportage, c'est le problème de la politique intérieure irakienne. C'est que le Premier ministre Haider El-Abadi donc, est un chiite, comme la majorité de la population. Il est soutenu par une coalition de bigarrés de partis chiites qui sont rivaux entre eux, avec des gens, et notamment l'ancien Premier ministre Nouri El-Maliki, qui n'attendent qu'une chose, c'est que Haider El-Abadi échoue pour se présenter comme l'homme providentiel, ce qui serait une catastrophe parce que c'est Maliki qui est en partie responsable de la situation actuelle. Mais on a un système politique qui est totalement défaillant, qui est défaillant peut-être par sa construction, effectivement, initiale, après 2003, après la chute de Saddam Hussein, sous le design institutionnel inspiré par les Américains, mais qui est aussi défaillant parce que les hommes politiques irakiens n'ont pas le sens de l'intérêt national, notamment dans les différents partis chiites.
Merci Yann Mince, on vous retrouve juste après la pause, le temps des informations sur RFI et on parlera de l'actualité de la semaine en Afrique, en France et de la campagne électorale aux États-Unis.
Une semaine d'actualité, François Mazet.
Une semaine d'actualité, deuxième partie avec toujours notre invité Yann Mince, journaliste au magazine Alternative Économique. On en vient à la campagne électorale américaine. La tendance des sondages donne en ce moment un avantage assez marqué à Hillary Clinton contre Donald Trump. Au niveau national, mais aussi au niveau des swing states, ces états indécis que les deux candidats ciblent particulièrement, qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La Floride, l'Ohio, la Pennsylvanie, labourés par les candidats, nous racontait Grégoire Pourtier mardi matin.
Aux États-Unis, on peut devenir président sans la majorité des voix au niveau national. Le seul objectif, c'est d'atteindre le chiffre magique de 270 grands électeurs accumulés en gagnant les scrutins dans chaque état. Or, pour les trois quarts d'entre eux, on sait déjà s'ils vont davantage voter démocrate, grosso modo sur les côtes est et ouest, ou républicain, dans le centre du pays. Et que l'on gagne de justesse ou largement, le résultat est le même. On emporte tous les grands électeurs de l'État, dont le nombre dépend de la population. Alors, à quoi bon se démener dans ces zones jouées d'avance ? Clinton et Trump vont plutôt écumer les swing states, où le vote avait été serré lors de la dernière présidentielle, donc où le scrutin de novembre est plus incertain. Et les sondages sont formels, la candidate démocrate est souvent en tête dans ces états disputés et Trump ne pourra pas refaire son retard partout. L'équipe de ce dernier pense donc qu'il doit se focaliser sur le triplé Ohio, Floride, Pennsylvanie, les trois plus gros pourvoyeurs de grands électeurs parmi ces swing states. Comme le prouve déjà la profusion de spots télévisés et de visites des candidats, la bataille va surtout se jouer dans ces trois états, tous emportés par Barack Obama en 2008 et 2012.
Yann Mince, une fois de plus, et même encore davantage que d'habitude, cette campagne américaine, c'est une question de personne plus que de programme.
Ça dépend, parce que en ce qui concerne Trump, on a bien du mal à savoir où se situe son programme sur l'axe idéologique. Il a des propositions, comme par exemple les réductions d'impôts, qui empruntent à ce que font habituellement les républicains, enfin en tout cas depuis les années 80, pas les républicains d'avant, mais depuis Reagan en gros, les républicains sont de plus en plus anti-impôts, anti-État, etc., etc. En même temps, sur tout un tas d'autres sujets, le protectionnisme par exemple, il est aux antipodes de la doctrine républicaine, pas forcément de la pratique une fois qu'on est au pouvoir, mais en tout cas de la doctrine. Et là, il a promis récemment un gigantesque plan de grands travaux pour les infrastructures américaines, qui en ont d'ailleurs besoin, les ponts, etc., les routes. Simplement, il veut faire financer ça par l'emprunt. De l'emprunt, c'est de la dette. Et pour les républicains, pour l'establishment républicain, ça, c'est hérésie totale. On ne peut pas à la fois baisser les impôts et lancer des grands travaux dans tous les sens. Donc, Trump, de ce point de vue-là, brouille un peu le message. Et c'est clair qu'il essaye à la fois d'avoir les républicains classiques, qui détestent Hillary Clinton, et puis essayer aussi peut-être d'avoir une partie de l'électorat populaire qui est allé chez Sanders, le rival de Hillary Clinton, un démocrate qui était quelqu'un qui allait plutôt chercher le vote populaire, alors que Hillary Clinton a une image, on va dire, de bobo, de bourgeoise, de proche des grandes entreprises, des milieux financiers, etc., qui peut la desservir dans une partie de cet électorat. Donc c'est relativement brouillé cette année, beaucoup plus que ça ne l'était les années précédentes.
Comme souvent, les questions internationales sont reléguées au second plan. Alors on a un peu une idée de la doctrine d'Hillary Clinton, ça serait un petit peu la continuité de ce que font les États-Unis sous Barack Obama. La doctrine Donald Trump, c'est un peu plus flou, même si, pour la première fois depuis très longtemps, on a un candidat qui se revendique un petit peu isolationniste.
C'est un isolationnisme macho, c'est-à-dire c'est un isolationnisme qui dit par exemple la sympathie qu'il éprouve pour Poutine. C'est pas évident pour un homme politique américain de dire qu'il trouve qu'on peut s'entendre avec le président russe. C'est parce que le style, je pense, lui convient. C'est un style macho qui roule des mécaniques, etc. Ne vous occupez pas de mes affaires intérieures, je m'occupe pas des vôtres. On a vu aussi que c'est du côté de Trump un message à l'Europe qui est assez ferme sur le thème. Je parlais de l'OTAN dans la première partie à propos de la Turquie. Dans l'OTAN, on sait bien que les Américains dépensent beaucoup d'argent en matière de défense. Les Européens en dépensent moins. Et Trump dit, on n'a pas, nous, Américains, à payer pour la défense européenne. Donc de ce point de vue-là, c'est à la fois isolationniste, et c'est aussi un message, comment dire, budgétaire un peu direct, un peu cash, si je puis dire en l'occurrence, qu'il envoie aux Européens. Donc la doctrine de Trump, c'est une doctrine un peu étrange. Face à la Chine, il est assez ferme. Parce que là, il y a une dimension économique, une dimension commerciale. Il est persuadé que les Américains, le gouvernement américain n'est pas assez ferme face à la Chine en matière de droits de propriété, d'échanges commerciaux. Et lui se fait fort d'obtenir plus des Chinois.
On part en Espagne avec peut-être un espoir de sortie de crise politique. Le parti centriste Ciudadanos a accepté de soutenir la reconduction à la primature du conservateur Mariano Rajoy sur la base de 6 conditions, comme la lutte contre la corruption. L'investiture du gouvernement est prévue le 30 août, mais rien n'est encore fait, nous expliquait hier matin Diane Cambon.
Le verrou post-électoral a commencé à se débloquer. L'actuel Premier ministre par intérim, Mariano Rajoy, vient de franchir un pas vers la possibilité de former un gouvernement. En acceptant les 6 conditions du petit parti centriste qui aspire à une rénovation de la démocratie espagnole, Rajoy s'assure le soutien des 32 députés de Ciudadanos au vote d'investiture. Le leader de Ciudadanos, Albert Rivera, a mis la barre haute. Il demande à Rajoy une refonte de la loi électorale au profit des partis plus modestes, la levée de l'immunité parlementaire, mais aussi l'expulsion systématique des élus mis en examen. Rajoy va devoir désormais s'exposer au périlleux exercice du débat d'investiture prévu le 30 août. La coalition de droite, qui ne dispose que de 169 sièges, a besoin de 6 votes d'abstention du Parti socialiste pour former un gouvernement en minorité. La balle est désormais dans le camp des socialistes. S'ils maintiennent leur nom à l'investiture de Rajoy, les Espagnols devront alors se rendre pour la 3e fois aux urnes en 1 an. La date du 25 décembre, en pleine fête de Noël, a déjà été fixée.
Yann Mince, le système espagnol a été construit sur un bipartisme solide qui a complètement volé en éclats avec la crise.
Il y avait déjà eu, à certains moments dans l'histoire récente de l'Espagne, des petits accros au bipartisme, parce que le parti dominant était quand même obligé d'aller chercher une alliance avec, par exemple, les partis nationalistes basques. Mais effectivement, depuis les élections de décembre dernier, le système a explosé. On a maintenant, en gros, 4 partis et puis des petits, et 4 partis de tailles inégales, dont aucun n'est vraiment dominant, au point de former à coup sûr une majorité. Et ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer entre Mariano Rajoy et Albert Rivera, c'est une alliance, comme le disait Diane Combon, qui ne suffit pas, à condition qu'elle se concrétise jusqu'au bout, parce qu'encore faut-il que le parti de Rajoy suive Rajoy. Si elle se concrétise jusqu'au bout, il faut quand même que quelqu'un d'autre, au moins, s'abstienne pour que Rajoy puisse gouverner en minorité. Il y a une très forte pression sur les socialistes espagnols. Il y avait, lors de la précédente tentative d'investiture, entre le PSOE, les socialistes, et Rivera, il y a eu un pacte. Et Rivera voudrait maintenant prendre des éléments de ce pacte pour les négocier avec Rajoy de façon à convaincre les socialistes de finalement s'obtenir. De leur dire, voilà, j'ai obtenu de Rajoy quelque chose et maintenant vous pouvez vous abstenir en fermant les yeux sur le fait que vous n'aimez pas Rajoy. Ce n'est pas du tout sûr que ça marche, mais ça veut dire aussi une grande pression sur les socialistes espagnols. L'ancien Premier ministre Felipe González a dit que le Parti socialiste devrait assurer la gouvernabilité, c'est-à-dire devrait en gros s'abstenir pour qu'il y ait un gouvernement en Espagne et pas de 3e élection. Le grand quotidien proche des socialistes, El País, a dit la même chose, mais pour l'instant, le Parti socialiste résiste et il va y avoir une pression très forte, parce qu'effectivement, une 3e élection, c'est beaucoup de temps perdu. Et alors, ce qui était très exotique, je le découvre avec Diane Cambon, c'est de fixer les élections au 25 décembre, un moment où, effectivement, je crains que beaucoup de gens ne soient pas proches de leur bureau de vote habituel.
Sept jours en Afrique. L'actualité en Afrique cette semaine, c'est d'abord cette reconfiguration de la campagne électorale au Gabon. À une semaine de l'échéance, les principaux adversaires du président Ali Bongo ont décidé de se regrouper derrière une candidature unique pour ce scrutin du 27 août, scrutin à un seul tour. Cette candidature, c'est celle de Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien chef de la diplomatie du Gabon, l'ancien beau-frère aussi du président Ali Bongo. Information révélée par RFI mercredi midi et rapidement confirmée lors d'un meeting spectaculaire à Libreville, auquel notre correspondant Yves-Laurent Goma s'est rendu.
Ils sont venus spontanément vivre cette nouvelle page de l'histoire du Gabon. Personne ne croyait que ces 3 candidats pouvaient se faire autant violence. Et quand Jean Ping a été appelé sur le podium, il a esquissé un salut militaire. « Je suis le général qui mènera le combat de la libération du Gabon », a-t-il dit quelques heures plus tôt à RFI. Deuxième image forte, Casimiro Yemba, Ginzo Bandama et Jean Ping se sont retrouvés sur le podium face à la foule. Ils se sont tenus les mains avant de les lever au ciel. Le public a exulté et a spontanément entonné l'hymne national.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ça touche les cœurs de tous les Gabonais. Nous sommes convaincus que le Gabon va rentrer dans l'histoire.
C'est clair, ça commence maintenant. Il fallait ce regroupement des poids lourds, des candidats de l'opposition pour en trouver un seul. Et je crois que c'est bon.
Le meeting a été scruté par des observateurs de l'Union africaine et de l'Union européenne.
Et le Gabon, on en parlera demain soir dans Géopolitique, le débat à 18h10, temps universel. Semaine très agitée dans l'Est congolais, le territoire de Beni. Avec cette nouvelle attaque, c'était le week-end dernier, attaque imputée au groupe rebelle ADF Nalu. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Cela fait des années que ça dure, avec le ras-le-bol bien sûr de la population vis-à-vis des autorités congolaises, jugées incapables de les protéger. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu sur place, entouré de ministres et de généraux. On l'a confronté à l'horreur. Notre correspondante permanente en RDC, Sonia Roulet, était présente.
La délégation à pied, le Premier ministre, les ministres et les généraux, sur une piste en brousse, escorte militaire et des policiers tous les 50 mètres, leur guide n'est autre que le maire de la ville de Beni. Ici, un groupe d'individus, les bras liés, massacrés, là, deux corps de femmes peut-être violés.
C'est ici qu'il y a eu le véritable carnage. Ici, il y avait des gens qui venaient des champs. Oui, mais maintenant, à partir de là, nous allons voir des gens qui ont été tués dans leur maison.
Ça et là, des maisons brûlées, cachées au détour du chemin, avec chacune leur histoire. Première case, tout le monde a pu se sauver. Le Premier ministre Matata Ponyo semble soulagé.
Ils ont eu le flair de partir.
Ils sont partis avant.
Et les autres, quand ils sont arrivés, ils ont brûlé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais les gens sont sortis, se sont sauvés.
Mais alors, nous, on va arriver dans une autre maison où ils ont été tués.
Une interpellation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Evariste Boshab.
La première conviction, c'est qu'il y a des complicités locales. Il faut quand même qu'il y ait un garçon qui connaisse très bien ici pour venir.
Pour venir jusqu'ici.
Pour venir comme ça, des gens qui ne connaissent pas la région.
Un général surenchéri expliquant que selon les statistiques de l'armée, plus de 45% des ADF seraient des Congolais. Mais le maire de la ville dément toute complicité. C'est un secteur que les ADF connaissent très bien, dit-il. Ils le sillonnent allant d'une de leurs bases à l'autre depuis des années.
Et dans la foulée de cette visite, des manifestations ont eu lieu à Beni avec des violences mercredi faisant au moins 2 morts. La justice militaire congolaise a annoncé l'ouverture d'un procès contre des auteurs présumés de tueries intervenues depuis 2 ans dans la région. 200 personnes environ devraient comparaître, des Ougandais, des Tanzaniens, des Rwandais, des Congolais et même des Sud-Soudanais, tous membres présumés des ADF. Autre région en proie aux violences, le nord-est du Nigeria où sévit Boko Haram. La lutte pour le leadership du groupe terroriste continue avec la propagande qui va avec. Et c'est ainsi que des hommes se réclamant d'Aboubakar Shekau, le chef pourtant déchu par l'organisation centrale de l'État islamique, ont publié une vidéo cette semaine sur laquelle apparaissent des lycéennes de Chibok enlevées il y a plus de 2 ans. Vidéo non datée et non localisée sur laquelle a enquêté Moïse Gomis à Lagos.
Selon Aïcha Yesoufou, la porte-parole du mouvement Bring Back Our Girls, des parents de Chibok ont reconnu certaines des jeunes filles. Et pour le collectif regroupant ces parents des lycéennes de Chibok, cette vidéo constitue bien une preuve de vie. La mise en scène rappelle qu'il s'agit d'une vidéo de propagande. À l'image, l'homme prenant la parole est habillé en treillis. Il tient à la main une arme de gros calibre. Son visage est complètement recouvert par un foulard. Il s'exprime en Haoussa. Au fond, une rangée de jeunes femmes debout et plusieurs rangées de jeunes femmes accroupies. Toutes sont vêtues d'un long voile. L'homme en treillis indique que 40 des captifs seraient mariés sans préciser avec qui. Il reconnaît que suite au bombardement aérien mené notamment sur la forêt de Sambisa, un certain nombre d'entre elles seraient décédées sans dire exactement le nombre, que d'autres seraient blessées. Enfin, ce messager se réclame de la branche armée dirigée par Aboubakar Shekau. Il demande la libération des membres de Boko Haram détenus à Lagos, à Abuja et à Maiduguri et il conditionne la libération des jeunes filles de Chibok au sort de ses prisonniers.
En Zambie, la commission électorale a annoncé la réélection lundi d'Edgar Lungu à la tête du pays avec 50,3% des suffrages face à son adversaire Hakainde Hichilema qui va contester ses résultats en justice. Edgar Lungu qui va donc entamer un mandat de 5 ans, nous expliquait Anne Cantner.
Pour la 2e fois en 1 an et demi, Edgar Lungu remporte la présidence pour 5 ans et il accorde peu de crédit aux critiques de l'opposition. Son rival, Hakainde Hichilema, conteste le résultat, mais pour le parti du président, les opposants sont des pleurnichards qui se plaignent à chaque fois qu'il y a une élection. Un ton qui correspond bien à l'attitude d'Edgar Lungu ces dernières semaines. Pendant la campagne et dans un climat de tension, il avait dit, à propos de l'opposition, « S'ils me mettent au pied du mur, je suis prêt à sacrifier la démocratie pour la paix ». Nettement moins prometteur que l'année dernière, l'ancien avocat, ex-ministre de la Défense et de la Justice, promettait alors de protéger les travailleurs, dans la droite ligne de son prédécesseur très tourné vers les ouvriers. Mais depuis, des milliers de personnes ont perdu leur emploi. La Zambie souffre beaucoup de l'effondrement du cours du cuivre, sa principale ressource. Et les électeurs attendent beaucoup du président pour sauver l'économie du pays.
Yann Mince, dans Alternative économique, ce mois-ci, on parle d'utopie. Le livre de Thomas More a 500 ans. Est-ce qu'une société peut vivre sans utopie ?
Non, je pense que psychologiquement, beaucoup de gens ont besoin, c'est assez naturel, quand on vit dans un environnement dont on n'est pas satisfait, d'essayer de l'imaginer autrement. Alors le problème, c'est que l'utopie, ça a deux définitions assez différentes. Quand on prend le livre de Thomas More, c'était une façon de critiquer la société de son temps, pas forcément de proposer des choses extrêmement précises sur la façon dont il fallait l'organiser, mais de critiquer la société de son temps, et notamment le pouvoir des nobles, le pouvoir de l'Église, etc. Il y a une autre dimension de l'utopie qui est de commencer à anticiper, peut-être parfois sur des petites échelles, et on le voyait notamment au XIXe siècle avec ces communautés utopistes, les gens autour de Fourier, etc., qui fondaient des communautés pour organiser la société autrement et qui essayaient de préfigurer ce que pourrait être une société organisée à une échelle plus large qui soit plus satisfaisante. On a toujours cette tension dans l'histoire entre les utopies, un peu extravagantes, mais qui sont une façon de critiquer son temps, et puis les utopies qui sont déjà des projets peut-être pas réalisables à court terme, mais qui le seront à moyen terme, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens, par exemple, qui ont manifesté à Paris, Nuit debout, les indignés, à mon avis, relèvent plutôt de la deuxième catégorie, ceux qui voudraient anticiper une autre façon de faire. Est-ce que la façon dont ils organisent dans une petite communauté est reproductible à l'échelle d'un pays, dans des institutions d'une nation ou au-delà? C'est une vraie question.
Une utopie moderne, c'est peut-être l'utopie écologique. Justement, hier, en Côte d'Ivoire, on se souvenait du Probo Koala. C'était il y a 10 ans, cette catastrophe, ce navire poubelle qui déversait des produits toxiques en plusieurs endroits d'Abidjan. Conséquence, 17 morts, des milliers d'intoxications et de maladies graves. L'un des plus gros scandales environnementaux d'Afrique. Frédéric Gara s'est rendu sur l'un des sites pollués d'Abidjan, la décharge d'Akwedo.
Akwedo est l'une des décharges à ciel ouvert d'Abidjan. C'est aussi l'un des 17 sites où les camions en citerne affrétés par la société Tommy ont déversé leur boue mortelle au mépris de toutes les règles environnementales et sanitaires. Charles Kofi, président de l'association du Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes de Côte d'Ivoire.
Là, le coin que vous voyez, il y avait un grand caniveau. Et c'est dans ce caniveau que les déchets toxiques ont été déversés dès les premières heures du déversement des déchets toxiques. Des morts procédant des conséquences directes de l'inhalation faite des produits.
Kassoum Kofi Kwame nous montre une photo de sa fille, Larissa, intoxiquée par les gaz toxiques et décédée à l'âge de 6 mois.
Donc c'est un jour malheureux pour nous, pour l'Afrique. Mais il faut que l'Afrique change, pour qu'elle sache que l'intérêt personnel n'est pas un intérêt national. On ne connaît pas les auteurs, qui a envoyé le dossier. Personne n'a été condamné.
La méfiance est grande en ce qui concerne ces sites d'épandage pollués. Mais pour le colonel Dibignagne, directeur général du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, il n'y a plus lieu de craindre les boues toxiques.
Nous avons mené des campagnes de prélèvement d'eau, de sol et de l'air pour analyse. Les résultats qu'on a eus indiquent qu'on n'arrive même pas à détecter ces polluants au niveau analytique. Donc nous, aujourd'hui, on peut affirmer que la dépollution a été bien menée.
Malgré ces mesures, à Abidjan, on continue encore à s'interroger sur les dégâts sanitaires à long terme. Le ministère de la Santé note une hausse des cancers dans les zones concernées et certaines malformations à la naissance laissent perplexe.
Sept jours en France avec cette rentrée politique qui s'annonce houleuse, avec en ligne de mire la longue course à obstacles vers la présidentielle. À droite, la primaire promet un sacré combat, mais à gauche, on votera aussi. Une primaire va être organisée pour tenter de relégitimer ou de faire tomber, sait-on jamais, François Hollande. Et il y a des prétendants. Parmi ceux qu'on appelle les frondeurs, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, a officialisé sa candidature mardi soir, Marine de la Moissonnière.
Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle et je participerai à la primaire organisée par le Parti Socialiste.
Benoît Hamon a pris de vitesse son ancien collègue au gouvernement, Arnaud Montebourg, qui devrait lui se déclarer dimanche prochain, rejoignant ainsi Gérard Filoche et Marie-Noël Lindemann. Les frondeurs partent donc en ordre dispersé à la primaire de la gauche. Si Arnaud Montebourg est pour le moment le principal rival de Benoît Hamon, les deux hommes sont sur la même ligne politique.
Notre modèle de développement, il est à bout de souffle. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de croissance et nous sommes comme dans une religion à sacrifier ou à faire des offrandes d'argent public, de droits sociaux. Il faut changer de modèle de développement. C'est aussi notre modèle démocratique qui est en crise. La Ve République, c'est une machine à trahir.
Entre partisans d'une 6e République, une alliance n'est pas exclue, mais qui se ralliera à l'autre? Si Arnaud Montebourg veut me soutenir, il est le bienvenu, a ironisé le député des Yvelines. Mais pas de rapprochement avant le second tour. Pour l'instant, Benoît Hamon veut défendre ses idées, moins connues des Français que son concurrent, mais bénéficiant de solides réseaux au sein du PS et à l'Assemblée. Il compte bien séduire les frondeurs socialistes réunis les 10 et 11 septembre à La Rochelle. Plus largement, Benoît Hamon tentera surtout d'incarner l'alternative à François Hollande et de récupérer les voix des électeurs de gauche déçus.
François Hollande qui a lui laissé entendre qu'il serait candidat si la victoire est possible. Alors Yann Mince, un président de la République française sortant qui pourrait se représenter mais qui devrait passer par une primaire au sein de son propre camp. Il y a beaucoup de candidats possibles contre lui. C'est une bonne chose selon vous ou ça montre l'extrême affaiblissement de François Hollande?
Si mes souvenirs sont bons, quand il était encore dans l'opposition, François Hollande défendait le principe des primaires. Donc je ne vois pas pourquoi, une fois président, il ne les défendrait pas. Ça me paraît logique qu'un président en exercice, s'il est sortant, s'il est candidat, redevienne un homme de son parti. Il n'y a pas de raison qu'il ait un droit divin. Benoît Hamon critiquait à juste titre la Ve République, qui a un côté monarchie républicaine. Je ne vois pas pourquoi ce serait vrai aussi pour les élections. Maintenant, la question, c'est quand on fait des primaires dans un parti, c'est forcément un moment de dispute, un moment de divergence. Et ensuite, il faut se rabibocher parce qu'il faut se rallier au candidat qui est sorti vainqueur des primaires. Donc, plus il y a de candidats, plus les noms d'oiseaux risquent de voler dans tous les sens. Accessoirement, pour l'instant, ce jour, on ne sait pas si Arnaud Montebourg va se présenter directement à la présidentielle ou va se présenter au sein de la primaire socialiste. Et ça fait une différence. S'il se présente à la présidentielle directement, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, clairement, il divise les voix de gauche et il affaiblit le candidat mieux placé. D'ailleurs, en lançant sa candidature, Benoît Hamon a parlé de Jean-Luc Mélenchon en disant que Jean-Luc Mélenchon, son but, c'était de faire battre François Hollande, pas d'être élu. Donc, effectivement, si Montebourg fait pareil, ça sera la même logique. Je crois que c'est un peu ridicule d'avoir autant de candidats qui représentent en gros la même critique de gauche de François Hollande au sein du PS. Il faudrait qu'ils s'unissent, mais évidemment, on a toujours la tentation des égos, les ambitions personnelles. Chacun croit qu'il est mieux placé et attend que les sondages ou les urnes lui disent que non, c'est pas lui. Honnêtement, je pense que ça aurait été plus sain qu'ils se mettent d'accord entre eux, qu'il y ait un candidat à la gauche de François Hollande, peut-être un candidat à droite de François Hollande, Macron par exemple, et puis François Hollande, et puis voilà.
Yann Mince, on en vient à la polémique de la semaine pour terminer. C'est bien sûr beaucoup de papier imprimé pour un peu d'étoffe. Le burkini, ce maillot de bain qui couvre entièrement le corps. Les interdictions se multiplient sur les plages françaises. Et le sujet occupe les politiques désireux d'être entendus pendant leurs vacances. Avec d'un côté un gouvernement frileux et de l'autre une opposition de droite qui veut plus de restrictions. Julien Chavanne.
Il n'est pas encore officiellement à la tête de la Fondation pour l'Islam de France, mais Jean-Pierre Chevènement a déjà pris position sur le burkini, c'était sur Europe 1.
Ma position, c'est la liberté, sauf nécessité d'ordre public. Et je pense que quand il y a la possibilité de heurts, comme il a pu s'en produire à Cisco, le maire de Cisco, comme le maire de Cannes, sont fondés à prendre des arrêtés.
Un soutien limité, réaction plus ambiguë de la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Elle aussi est opposée au burkini, mais sans pour autant soutenir les interdictions municipales.
Il y a des arrière-pensées. Les arrière-pensées, pour une partie de la droite dure, celle qui flirte avec le Front National et qui veut faire de l'islam le sujet des mois à venir.
Et de laisser les maires décider en dernier ressort. Un entre-deux qui souligne un certain malaise du pouvoir sur cette question. À droite, c'est plus clair. Pour la porte-parole du parti Les Républicains, Valérie Debord, le gouvernement se défausse sur les élus.
Ce serait bien que le gouvernement prenne une position qui est une position relativement simple. Le vêtement en question crée un trouble à l'ordre public. Il n'a pas sa place sur le territoire de la République. Le gouvernement devrait juste rappeler le droit, juste la Constitution, juste l'égalité homme-femme.
À 8 mois de la présidentielle, la droite profite de cette polémique pour marquer sa différence.
Yann Mince, le burkini, cette polémique estivale, ça vous inspire quoi?
Je la trouve disproportionnée et grotesque. Disproportionnée parce que le nombre de burkinis sur les plages françaises m'a l'air pour l'instant assez réduit. Grotesque parce que on part du principe que des femmes qui mettent le burkini sont forcément aliénées, qu'elles le mettent sous la pression de quelqu'un d'autre. L'idée que ce soit une conception de la pudeur que je ne partage pas, mais qui me paraît parfaitement respectable, a l'air d'échapper à beaucoup de gens sous prétexte de défendre les droits de la femme. C'est-à-dire qu'il y aurait un vêtement qui serait conforme à l'égalité homme-femme. Alors, il va falloir qu'on m'explique quelle est la taille de la jupe qui est conforme à l'égalité homme-femme ou la profondeur du décolleté. Et par ailleurs, on parle de trouble à l'ordre public. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui, pour des raisons qui lui appartiennent de pudeur, de conviction, met un burkini, est censée être objectivement complice des djihadistes, et comme il y a des attentats en France, elle va créer un trouble à l'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le racisme se développe en France demain, il faudra interdire les Africains sur les plages parce que c'est une provocation qui peut troubler les racistes? Non, je veux dire que là, on est en train de pousser le bouchon très loin. Ce n'est pas vrai que le burkini est contraire à la laïcité. Il y a des lois sur le voile intégral et il y a des lois sur le voile à l'école. Pour l'instant, il n'y a aucune loi sur le burkini. Et on a bien vu d'ailleurs que Manuel Valls, à qui un journal, je crois que c'est La Provence, a posé la question, a dit qu'il ne voulait pas faire de loi là-dessus. Alors, il faudrait savoir. Il veut que ce soit des arrêtés municipaux. Je trouve ça totalement grotesque. Je ne partage pas du tout cette conception de la pudeur de ces femmes, mais honnêtement, qu'elles y aillent avec un bikini ou un burkini, personnellement, ça me laisse totalement indifférent.
Jean-Pierre Chevènement, 77 ans, un demi-siècle d'engagement politique, chargé de rabibocher l'islam et la République, entre guillemets.
Je pense qu'on aurait pu trouver un candidat un peu plus jeune. On parle sans arrêt du renouvellement des élites politiques en France. Jean-Pierre Chevènement est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme qui a une longue carrière politique derrière lui. En revanche, c'est un homme qui, sur les questions de l'islam, sur sa conception du Moyen-Orient, a souvent des positions assez tranchées que je ne partage pas. Je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre que Jean-Pierre Chevènement. J'espère que ce n'est pas pour le neutraliser pour une éventuelle candidature à la présidentielle.
Merci Yann Mince, journaliste au mensuel Alternative Économique. Le numéro sur un demi-millénaire d'utopie est toujours en kiosque. Tout de suite le journal, car l'info ne s'arrête jamais sur la radio du monde. Bonne journée.